Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Pour ce 15e millefeuille, je vous invite à franchir la Méditerranée pour aller à la rencontre d'un écrivain égyptien, témoin vivant de l'Égypte. Si vivant qu'il a dû s'en soustraire. Cet auteur, c'est Alaa El Aswany, et le roman que j'ai choisi, c'est celui qu'il a fait connaître internationalement, L'immeuble Yacoubian, une véritable plongée dans la ville du Caire dans les années 1990.
Et c'est à travers ces personnages qu'on puisse vraiment sentir la souffrance humaine. Le roman est un art pour les êtres humains, écrit sur les êtres humains, pour les êtres humains. Alors, il s'agit toujours des gens qui n'ont pas de voix, qui souffrent dans le silence, si vous voulez. Et c'est le rôle du romancier d'essayer d'être le porte-parole, de transmettre la voix des gens qui n'ont pas de voix, qui souffrent silencieusement.
C'est donc Alaa El Aswany que nous venons d'entendre dans une interview réalisée le 26 décembre 2018 pour France Culture. Et sans plus attendre, une mise en bouche pour démarrer avec le début de l'immeuble Yacoubian. 100 mètres à peine séparent le passage Balar, où habite Zaki de Souki, de son bureau de l'immeuble Yacoubian. Mais il met tous les matins une heure à les franchir, car il lui faut saluer ses amis de la rue. Les marchands de chaussures et leurs commis des deux sexes, les garçons de café, le personnel du cinéma, les habitués du magasin de café brésilien. Zaki Bey connaît par leur nom jusqu'au concierge, cireur de souliers, mendiant et agent de la circulation. Il échange avec eux salutations et nouvelles. C'est un des plus anciens habitants de la rue Soliman Pacha. Arrivé à la fin des années 1940, après ses études en France, il ne s'en est plus jamais éloigné. Pour les habitants de la rue, c'est un aimable personnage folklorique, vêtu été comme hiver d'un complet dont l'ampleur dissimule un corps maigre et chétif, une pochette soigneusement repassée et assortie à la couleur de la cravate dépassant de la poche de la veste, son fameux cigare à la bouche, du temps de sa splendeur, c'était un luxueux cigare cubain, maintenant il fume un mauvais spécimen local à l'odeur épouvantable et qui tire mal. Son visage ridé de vieillard, ses épaisses lunettes, ses fausses dents brillantes et ses cheveux teints en noir dont les rares mèches sont alignées de gauche à droite pour cacher un crâne dégarni. En un mot, Zaki de Souki est un personnage de légende, ce qui rend sa présence attachante et pas totalement réelle, comme s'il pouvait disparaître d'un moment à l'autre, comme si c'était un acteur qui jouait un rôle et dont on savait qu'une fois la représentation terminée, il allait enlever ses vêtements de scène pour reprendre ses habits de tous les jours. Si l'on ajoute à cela son esprit enjoué, ses sempiternelles plaisanteries grivoises et son étonnante capacité à s'adresser à chaque personne rencontrée comme à un vieil ami, on peut comprendre le secret de l'accueil chaleureux que lui font tous les matins aux environs de 10 heures les habitants de la rue. Les salutations matinales s'élèvent de toutes parts et souvent, parmi les employés des magasins, un de ses jeunes amis se précipite vers lui pour l'interroger d'un ton espiègle sur une question d'ordre sexuel qui lui paraît obscure. Zaki Bey fait alors appel à ses connaissances encyclopédiques dans ce domaine et il expose aux jeunes, complaisamment, à voix audible de tous et avec force détail, les plus infimes secrets du sexe. Parfois même, il leur demande une feuille et un crayon, qu'on lui fournit en un clin d'œil, pour dessiner avec clarté certaines positions originales qu'il a lui-même essayées du temps de sa jeunesse. Encore quelques informations importantes sur Zaki Bey Dessouki. C'est le fils cadet d'Abdelal Dessouki, un des plus célèbres leaders du parti Waft, plusieurs fois ministre, qui à la tête d'une des plus grosses fortunes d'avant la Révolution, possédait, avec sa famille, plus de 5000 fédanes des meilleures terres agricoles. Zaki Bey avait fait des études d'architecture à l'Université de Paris et il allait de soi qu'il serait un jour appelé à jouer un rôle politique en Égypte, grâce à l'influence et à la fortune de son père, mais la Révolution avait éclaté et la situation avait changé. Abdelal avait été arrêté et transféré devant un tribunal révolutionnaire, et même si l'accusation de corruption n'avait pu être prouvée, il était resté quelque temps incarcéré, et la plupart de ses biens avaient été confisqués par la réforme agraire pour être distribués aux paysans. Peu de temps après, le pacha était mort, du choc que ces événements avaient produit sur lui. La catastrophe survenue au père s'était répercutée sur le fils, dont le bureau d'études, ouvert dans l'immeuble Yacoubian, avait vite périclité. Au fil du temps, c'était devenu le lieu où Zaki Bey passait ses heures de loisirs, où il lisait les journaux, sirotait son café, rencontrait ses amis ou ses maîtresses, ou bien restait des heures à la fenêtre, à contempler les passants de la rue Soliman Pacha. Sur mes étagères de littérature étrangère, les livres d'Ala El Aswani sont entourés des livres de deux autrices, Svetlana Alexievitch et Margaret Atwood. Est-ce que ce voisinage pourrait tisser des liens plus étroits entre ces auteurs? Pour Svetlana Alexievitch, qui a écrit « La supplication et la fin de l'homme rouge », et qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2015 au titre de son œuvre polyphonique « Mémorial de la souffrance et du courage à notre époque », on trouve bien sûr la parole, le témoignage de ceux qui sont dans la souffrance et n'ont pas voix au chapitre. Comme elle le dit elle-même, « Très tôt je me suis intéressée à ceux qui ne sont pas pris en compte par l'histoire, ces gens qui se déplacent dans l'obscurité sans laisser de traces » et à qui on ne demande rien. À ce titre, avec Ala El Aswani, ces deux-là ont des liens qui sont les fondements de leur écriture. Concernant Margaret Atwood, romancière canadienne à qui on doit La Servante écarlate, adaptée au cinéma et en série télévisée en 2017, celle-ci est reconnue comme féministe et faisant la part belle aux femmes dans ses romans. Et si ce propos ne serait pas pour déplaire à Ala El Aswani, c'est peut-être aussi sur l'aspect politique de leurs écrits qu'ils pourraient se rejoindre. Mais si on lui demandait qui sont ses auteurs préférés qu'il aimerait côtoyer, il citerait, sans hésiter, La Bruyère avec les caractères pour la description de ses personnages, Dostoïevski, qu'il considère comme un très grand écrivain, qui a lui aussi été interdit dans son pays de 1917 à 1939, car révolutionnaire à sa façon. Mais on peut ajouter aussi Molière et ceux que l'on peut nommer comme écrivains médecins, Bulgakov, Zola, Ségalène, et bien sûr, un de ses maîtres, Anton Tchekhov. Ala El Aswani est née en 1957 au Caire, dans une famille francophone. Son père, Abbas El Aswani, était avocat et également écrivain. Ala El Aswani suit ses études au lycée français de Bab El Louk, au Caire, où il apprend la langue française et où il est initié à la culture, à la littérature française. Il considère d'ailleurs la France comme sa deuxième patrie, même s'il écrit en arabe. Il dira, en 2014, lors d'une interview pour Télérama, « Être écrivain a toujours été le rêve de ma vie. La littérature était omniprésente à la maison. Je disais souvent que nous étions quatre à vivre sous le même toit. Mon père, ma mère, l'écriture et moi. » Comme son père, qui exerça deux métiers en même temps, il sera, lui, dentiste écrivain. Mais cette profession médicale est intimement liée à l'écriture. Pendant longtemps, il écrit dans le même endroit où il exerce son activité de dentiste. C'est pour lui une façon de rester en contact avec les habitants du Caire, ses patients qui venaient parfois simplement pour parler ou prendre un café. Pour lui, médecine et écriture sont deux métiers qui parlent de la souffrance humaine. L'immeuble Yacoubian est son premier roman. Et tout de suite, c'est une reconnaissance internationale qui commence d'abord dans les pays arabes avant de s'étendre partout. De par la teneur de son récit et de ceux qui suivront, cette célébrité sera au début une protection pour lui face au régime en place en Égypte. Comme il le dit lui-même, sous le président Moubarak, je bénéficiais d'une certaine marge de manœuvre. J'avais ce que j'appelle une liberté de bavardage. Car engagé, il l'est. En 2004, il cofonde le mouvement d'opposition Kifaya, ça suffit. Et en 2011, il est partie prenante dans la révolution de la place Tahrir. Ce printemps égyptien sera d'ailleurs au cœur de son roman « J'ai couru vers le Nil », paru en France en 2018, qu'il qualifie d'histoire humaine de la révolution égyptienne. Ce brûlot, contre le régime en place et les militaires, dénonçant la répression violente subie par les manifestants, sera d'ailleurs le premier de ces livres interdits en Égypte et dans tous les pays arabes, à l'exception du Liban, du Maroc et de la Tunisie. À compter de l'arrivée au pouvoir des militaires et du général Al-Sissi en 2014, Alaa El Aswani est vu par le régime dictatorial comme un ennemi. Il ne pourra plus intervenir dans aucun média égyptien, que ce soit radio, télévision ou encore presse écrite où il publiait ses chroniques. Lui et ses proches sont victimes de pressions et d'actes d'intimidation. En 2015, il dira lors d'une interview qu'il vit depuis des années avec l'idée que des gens veulent sa mort parce qu'il serait, selon eux, contre l'islam. C'est ainsi qu'il commencera à donner des cours dans des universités à l'étranger et qu'à partir de 2017, il enseigne l'écriture à New York. À partir de 2018, compte tenu des menaces pesant sur lui et sur les conseils de ses avocats, il décide de ne plus retourner en Égypte. Il vit donc aujourd'hui aux États-Unis, mais n'a rien perdu de ses engagements. Dans son dernier roman, « Au soir d'Alexandrie », paru en 2024, à travers le portrait de quatre Alexandrites, c'est la dictature de Nasser qu'il dénonce, avec l'évocation de la ville cosmopolite de son enfance, cette Alexandrie des années 60 dont il était tombé amoureux. Alors, pour se rapprocher un peu plus d'Alaa El Aswani et de l'Égypte qu'il porte en son cœur, je vous invite à écouter Oum Kalsoum, celle qui était surnommée l'astre de l'Orient et qu'il écoute fréquemment lorsqu'il écrit.
على بلدي المحبوب ودّيني
L'immeuble Yacoubian est un roman que Alaa El Aswany a commencé en 1998 et qui est paru en 2002 en Égypte. C'est aussitôt un succès dans le monde arabe, avec 100 000 exemplaires vendus en quelques mois, avant de devenir un phénomène international. Le roman est traduit dans 37 langues et est même porté à l'écran en 2006 par Marwan Ahmed, film qui lui a attiré plus d'un million et demi de spectateurs, dont des centaines de milliers en Égypte. C'est en 2006 qu'il paraît en France, aux éditions Actes Sud. L'immeuble Yacoubian, c'est à l'origine un immeuble luxueux, construit en plein cœur du Caire, dans les années 30. Il existe donc réellement. À l'époque de sa construction, c'est la fine fleur de la population de la ville qui s'y est établie, avant qu'au fil du temps, les riches désertent le centre-ville pour laisser la place à des habitants de conditions nettement plus modestes, voire miséreuses, concernant les cabanes en fer qui occupent le toit de l'immeuble. À travers une galerie de personnages habitant cet endroit, l'auteur nous immerge dans une véritable micro-société du Caire entre la fin du règne du roi Farouk et l'arrivée des frères musulmans au pouvoir. Alaa El Aswany est un véritable conteur et on sent la tendresse et l'affection qu'il éprouve pour ces personnages, si éclectiques soient-ils. Personnages qui se retrouvent confrontés au quotidien de la société égyptienne des années 1990, avec la corruption, les clivages des différentes classes sociales, les préjugés sexuels, les humiliations, les injustices, la violence et le poids de plus en plus important de l'extrémisme religieux. Alaa El Aswany dit d'ailleurs au sujet de ces personnages: la littérature de fiction nous apprend à ne pas voir les autres comme des étiquettes. Elle apprend à voir le monde au niveau individuel, chacun étant responsable de ses actes. Nous avons besoin des livres pour aller au-delà des étiquettes et des nationalités. Comment j'ai découvert ce livre ? Eh bien, nous l'avons évoqué, l'immeuble Yacoubian a rencontré un immense succès dès sa sortie et je n'ai pas échappé à cette contagion. C'est donc sans doute grâce aux critiques littéraires que je dois la découverte de ce livre. Remercions au passage les éditions Actes Sud et le traducteur d'Alaa El Aswany, Gilles Gauthier, qui depuis l'immeuble Yacoubian nous ont permis d'accéder à la majeure partie de son œuvre. Alors, si vous n'avez pas encore succombé à ce roman ou aux autres publications d'Alaa El Aswany, je vous y invite vivement. Et si c'est plutôt ses écrits journalistiques qui vous intéressent, je vous conseille alors de lire ses chroniques de la Révolution égyptienne ou ses réflexions dans son essai « Extrémisme religieux et dictature, les deux faces d'un malheur historique ». Quant à son rôle d'écrivain, voici ce qu'en dit Alaa El Aswany. Nous, les écrivains, devons également montrer au monde que l'être humain est avant tout un être universel, au-delà de la simple identité qui fait de l'un un occidental, de l'autre un musulman. Nous devons montrer cela, le revendiquer, parler en ce sens et nous battre. On a un besoin urgent des romanciers et des romans du monde. Retrouvons à présent un deuxième extrait de l'immeuble Yacoubian, lorsque le vieil aristocrate Zaki de Souki est mis à la porte par sa sœur de l'appartement qu'ils occupent tous les deux. Et c'est Antoine qui nous permet d'écouter ce deuxième extrait.
Le jour suivant, Abash Karoun se présenta accompagné d'un garçon de la rue, portant une grande valise, dans laquelle Daoulette avait mis tous les vêtements de Zaki. Vinrent ensuite les convocations au commissariat de police où Daoulette avait déposé plusieurs procès-verbaux pour établir ses droits sur l'appartement et pour mettre en garde Zaki contre toute tentative de voie de fait. Plusieurs amis essayèrent de s'entremettre entre le frère et la sœur, mais Daoulette ne voulut rien entendre. Zaki lui téléphona à plusieurs reprises et elle lui raccrocha au nez. Finalement, il consulta un avocat qui lui dit que sa position n'était ni bonne ni mauvaise, car l'appartement était loué au nom de son père et Daoulet avait le droit d'y habiter. Il lui rappela que les procédures judiciaires étaient longues et que la bonne façon de procéder face à une telle situation était d'employer la force. Il lui fallait, même si c'était regrettable, louer les services de plusieurs hommes de main, chasser Daoulet de l'appartement et l'empêcher d'y rentrer. Que ce soit à elle d'avoir recours aux tribunaux. C'était la seule façon de régler ce genre de litige. Zaki donna son accord à l'idée de l'avocat et proposa que la porte soit fracturée et la serrure changée un dimanche matin quand Daoulet, selon son habitude, allait à la banque. Il assura l'avocat que ni le portier ni aucun des voisins ne l'empêcheraient de réaliser son plan. Il parlait avec fougue et sérieux, mais au fond de lui-même, il savait bien qu'il ne ferait rien de la sorte. Il ne louerait pas les services d'homme de main, il ne chasserait pas Daoulet et il ne la traduirait pas en justice. Il ne pouvait pas le faire. Avait-il peur d'elle? Peut-être. Jamais il ne lui tenait tête. Il battait toujours en retraite devant elle. Lui n'avait pas un caractère combatif. Depuis son enfance, il n'aimait pas les conflits et les problèmes et les évitait à n'importe quel prix. Mais également, il ne le chasserait pas parce que c'était sa sœur. Même s'il récupérait son appartement et la mettait à la rue, il ne serait pas heureux. Se battre contre elle l'attristait, car il ne parvenait pas à penser à elle comme une personne dure et méchante. Quoi qu'elle ait fait, il ne parvenait pas à oublier l'ancienne image d'elle qu'il aimait. Comme elle était douce et pleine de retenue, et comme elle avait changé. Il était triste que sa relation avec sa sœur unique se soit dégradée à ce point. Il considérait ce qu'elle lui avait fait et se demandait d'où lui était venue cette cruauté. Comment avait-elle pu le mettre à la porte devant les voisins et comment avait-elle pu s'asseoir devant l'officier de police au commissariat pour rédiger un procès-verbal contre son frère? N'avait-elle pas pensé un seul instant qu'il était son frère et qu'il ne lui avait jamais fait aucun mal pour être récompensé de cette façon? Et puis, est-ce que quelque bien mérite que l'on perde sa famille? Zaki ressentit peu à peu la tristesse le recouvrir et étendre son ombre noire sur sa vie. Il passa des nuits entières sans pouvoir dormir, veillant jusqu'à l'aube sur le balcon, buvant, fumant et considérant des événements du passé. Il pensait parfois que depuis sa venue au monde, il n'avait pas eu de chance, à commencer par la date de sa naissance qui n'était pas favorable. S'il était né 50 ans plus tôt, sa vie aurait été complètement différente. Si la révolution avait échoué, si le roi Farouk avait arrêté à temps les officiers libres qu'il connaissait tous un par un, la révolution n'aurait pas éclaté et Zaki Bey aurait vécu sa véritable vie, celle qui était digne de lui. Zaki Bey, fils du pacha Abdelhal Dessouki. Il serait fatalement devenu ministre, voire président du conseil. Une vie magnifique qui lui correspondait vraiment à la place de cet englument, de cette humiliation. Une prostituée qui le drogue et le vole, puis sa sœur qui le met à la porte et lui fait un scandale devant les voisins. Et finalement, le voilà qui dort au bureau avec Abashkaroun. Était-ce de la malchance ou un défaut de sa personnalité qui le poussait toujours à prendre la mauvaise décision? Pourquoi était-il resté en Égypte après la Révolution?
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule. foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Résonance. La résonance pour moi entre l'immeuble Yacoubian et une autre œuvre s'est faite récemment avec un premier roman, cadeau de ma fille. Ce que je sais de toi, roman que nous devons à Éric Chacour, un Québécois né de parents égyptiens. En effet, ce roman nous parle de l'Égypte. À travers le parcours de Tarek, jeune médecin dans les années 80, issu d'une famille bourgeoise de la communauté levantine du Caire. Tarek semble suivre le destin qui lui est dévolu, dans les pas de son père, jusqu'à ce qu'il décide d'ouvrir un dispensaire dans le quartier pauvre du Mokattam. C'est là qu'il fera la rencontre d'Ali, un jeune homme issu de ce milieu défavorisé, et il va se produire ce que l'on pourrait appeler une sortie de route dans la voie toute tracée de Tarek. Il va se retrouver confronté au poids de la société égyptienne traditionnaliste jusqu'à être contraint de quitter le pays pour le Québec. Ce roman, c'est l'histoire d'un amour impossible, mais aussi une histoire de filiation, d'exil et d'absence, servie avec une très habile construction du récit, et l'écriture sensible et délicate d'Éric Chacour qui vous tiendra suspendu jusqu'à la dernière page. Pour vous inciter à lire ce roman paru aux éditions Philippe Ray, je vous dirai encore qu'il a été primé de nombreuses fois, notamment avec le prix Fémina des lycéens en 2023 et le prix des libraires en 2024. Et si vous hésitez encore, allez voir la très belle couverture que l'on doit à une œuvre d'Alireja Chojayan, artiste iranien exilé en France. Et en dernier ressort, je vous propose l'écoute d'un extrait de « Ce que je sais de toi » à ce moment de la rencontre entre Tarek et Ali. Lorsque tu arrivas au Mokattam ce soir-là, la foule était massée devant le dispensaire. Tu avais bien 40 minutes de retard, mais tous, ici, savaient que tu venais le mercredi et n'y auraient dérogé pour rien au monde sans les prévenir. À mesure que tu t'éloignais du centre du Caire, tu te sentais porté par un second souffle qui te faisait oublier les efforts d'une journée commencée près de 12 heures plus tôt. Tu garas ta voiture à côté du bâtiment et rapidement les odeurs familières des déchets brûlés se firent sentir. Méprisant le semblant de queue censée régir l'ordre de passage, Certaines personnes s'approchèrent de toi pour t'expliquer leurs problèmes. Ils se firent bien vite reprendre par ceux arrivés plus tôt. Tu jetas un coup d'œil furtif à la foule, distingua quelques cas qui te semblaient prioritaires, jeunes enfants, personnes âgées ou visiblement affaiblies, situations d'urgence, et commença tes consultations. Il faisait particulièrement chaud ce soir-là, et l'unique ventilateur que tu préférais orienter vers tes patients ne t'était pas d'un grand secours. Les cas que tu voyais défiler relevaient autant de la médecine générale que des gestes élémentaires d'hygiène et de sécurité. Blessures liées à l'absence de protection sur les chantiers, malnutrition infantile, douleurs abdominales et saignements urinaires annonçant souvent une bilharziose contractée faute d'eau potable. Encore aujourd'hui, il t'arrive de repenser à cette soirée. Tu avais fini de remplir le dossier médical de la dernière patiente et le classais méthodiquement dans ton armoire. Tu appréciais la relative quiétude de l'instant. Ta fenêtre, ouverte, laissait enfin filtrer un air plus frais entre les mailles de la moustiquaire. Par-delà les toits des habitations voisines que le sable rendait monochrome, ton regard s'arrêta un instant sur les lumières du Caire que tu surplombais. Elle te faisait l'effet d'une danse, vaguement rythmée par l'écho de la circulation qui te parvenait de loin. Tu débranchas le ventilateur, referma la fenêtre, éteignis la pièce et te dirigea vers la porte. Alors que tu tournais la clé dans la serrure, tu sursautas en percevant un mouvement dans ton dos. Tu te retournas aussitôt et distinguas une forme humaine sortant de l'ombre. À sa corpulence fluette, tu l'as pris d'abord pour une fille, avant de comprendre qu'il s'agissait d'un jeune homme qui ne devait pas avoir 20 ans. Il ne disait rien, mais ses yeux te fixaient. Sur le moment, tu adoptas une raideur méfiante. S'il ne faisait pas si sombre, tu aurais pourtant vu qu'il n'y avait ni menace, ni domination dans ce regard. « Je peux t'aider, mon garçon ?» Il se mordit la lèvre. « C'est toi, le docteur ?» Sa voix basse et posée tranchait avec son physique adolescent. Tu hochas la tête en signe d'approbation. La pression venait de retomber. Elle laissait place à la fatigue d'une longue journée qui prenait fin. Après t'être assuré que la porte du dispensaire était bien fermée, tu lui indiquas que ta tournée était terminée, mais que tu reviendrais la semaine prochaine. Regrettant ta réponse, tu te repris et lui demanda en quoi tu pouvais lui être utile. « C'est ma mère. Je crois que tu devrais la voir. Elle ne sort pas. On habite un peu plus bas. » Il tenait dans sa main droite quelques billets froissés qu'il te tendit. Rien dans son attitude ne semblait indiquer qu'il te demandait une faveur. Cela ressemblait davantage à la proposition d'un garçon habitué à négocier. Sans rivaliser avec les honoraires que tu pratiquais dans ta clinique de Doki, la somme qu'il te présentait allait bien au-delà de ce à quoi tu aurais pu t'attendre d'un habitant du Mokattam. Tu crus d'abord qu'il s'agissait d'argent volé, comme s'il allait de soi qu'un billet de banque entre des mains démunies ne pouvait avoir qu'une origine suspecte. C'était idiot. Sans doute s'agissait-il du fruit de mois de privation. Tu espéras qu'il n'avait pas lu dans tes pensées, le remercia, lui fit reprendre ses billets et lui indiqua le chemin de ta voiture. Une citation d'Allah El Aswani. Un écrivain est quelqu'un qui défend toujours les valeurs humaines. Je crois en ce que j'appelle la république de la littérature. Dès qu'on lit, on devient citoyen d'une république unique et unie de l'art, de la littérature, une république civilisée. Ce, quelle que soit notre nationalité et notre religion. L'arbre et ses espèces. Voilà déjà un certain nombre d'émissions que nous évoquons les arbres, mais il serait peut-être opportun de rappeler ce qu'est un arbre. En effet, comment le définit-on ? Si l'on s'en tient à la définition du dictionnaire, il est défini comme une plante ou un végétal vivace et ligneux, possédant un tronc et des branches à partir d'une certaine hauteur. Si on va plus loin, avec la définition qu'en font les spécialistes œuvrant pour l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, il s'agit d'une plante ligneuse ayant habituellement une tige unique, atteignant au moins une hauteur de 2 mètres, ou, si elle a des tiges multiples, au moins une tige verticale de 5 cm de diamètre. Voilà qui est un peu plus précis. D'après ces spécialistes, il existerait environ 64 000 espèces d'arbres connues, dont une majeure partie concentrée en Amérique du Sud, dans la zone tropicale. Mais il resterait également environ 9 000 espèces d'arbres non connues, dont la plupart sont encore dans des herbiers. Un travail titanesque donc, qui consiste d'abord à décrire chaque espèce, à la rapprocher des espèces déjà identifiées, et si elle ne se rattache à aucune d'elles, il conviendra de lui attribuer un nom assorti d'une illustration et d'un individu représentatif qui sera le porte-nom de l'espèce. Il nous reste donc encore beaucoup à apprendre des arbres. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, un MOOC de 6 heures dédié aux arbres est proposé en ce moment par l'Université virtuelle Environnement et Développement Durable, l'UVED, sur le site de France Université Numérique. Il suffit simplement de s'inscrire pour y participer. À bon entendeur, salut! Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.